EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Shalom, shalom à tous. Et oui, aujourd'hui nous parlons des fêtes juives. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui les fêter? Qu'est-ce qu'elles représentent réellement? Et eh bien, pour tout ça, je suis la mauvaise personne pour vous répondre. Et c'est pour ça que, avec Nadège et Stéphanie, eh bien, nous avons aujourd'hui la joie de pouvoir accueillir Doris. Doris qui va pouvoir nous répondre à toutes ces questions. Et bienvenue Doris. On va t'accueillir tout de suite autour de la table à distance et te dire bonjour et bienvenue à toi. On est très très heureuse que tu sois là pour traiter ce sujet. Et comme j'ai dit, moi c'est pas un sujet que je maîtrise vraiment. Toi Stéphanie?
Pas du tout,
pas du tout.
Peut-être Nadège un peu plus, même pas.
Bon, je n'ai connu que le Shabbat. J'ai assisté à
une fois,
et puis ça fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Donc Doris,
jamais moi dans ma vie.
Donc Doris, tu restes notre experte, c'est sûr et certain. Donc Doris, toi tu écris un livre, Les Fêtes de l'Éternel, et tu as des origines juives, et tu es aussi art-thérapeute en Israël. Donc toi-même dans ton parcours, tu as découvert ces fêtes, et tu as appris à pouvoir les découvrir. Et puis aujourd'hui, nous aussi, on va en savoir plus et savoir aussi comment est-ce que nous, est-ce qu'on peut les fêter, comment est-ce que ça s'applique et puis comment ça se passe en fait pour de vrai, parce que c'est tout un monde et je crois qu'on a beaucoup à apprendre de ces fêtes.
Ouais, c'est une joie en tout cas d'être là. Merci beaucoup et c'est clair que je pense qu'on a tous des choses à apprendre. Moi, je continue d'apprendre. Je crois que c'est le but aussi. On n'est jamais arrivé dans notre marche. Et moi, je sais que même d'année en année, des choses que je connais, je m'émerveille chaque fois un petit peu plus. Et puis il y a des choses que je creuse. Donc heureuse d'être avec vous en tout cas.
Ben nous aussi. Alors écoute, par où tu veux commencer? Est-ce que tu veux nous faire un petit déroulé des fêtes les plus importantes ou est-ce que tu veux y aller étape par étape? On te suit. On est tellement novices, écoute que
moi j'ose pas dire le nom d'une fête ni l'étape, donc je me tiens tranquille parce que
c'est ça, on va éviter de se ridiculiser. Donc vas-y, on te laisse lancer toi-même le sujet.
Peut-être pour commencer une petite précision. Pour poser le cadre, j'aime bien poser le cadre et le contexte au niveau de ces fêtes. Du coup, tu mentionnais le fait que ce sont des fêtes juives. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont considérées comme telles, en tout cas par les juifs. Mais j'aime à dire que c'est toujours chouette de retourner à la source. Et pour nous, la source, c'est la parole de Dieu. Mm-hmm. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, et entre autres le Tanakh, c'est la première partie de la Bible, donc ce qui correspond à l'Ancien Testament, en fait, jamais on voit la mention de fête juive. Et ce qu'on voit, c'est un mot en hébreu qui s'appelle Moadim. On va faire un peu d'hébreu aussi. Voilà. Et Moadim, en fait, c'est un temps marqué, un temps fixé. Et quand Dieu il utilise ce mot, il dit que ce sont mes fêtes, ce sont mes temps fixés, c'est en fait mon calendrier. Et j'aime cette expression et on la retrouve plusieurs fois du coup dans le Tanakh. Et je trouve que ça change notre perspective. Si on se dit que ce sont des fêtes juives et qu'on se positionne en tant que chrétien, bon, peut-être ça va nous intéresser culturellement, historiquement, mais c'est un petit peu loin de nous quand même. Ensuite, on va dire en tant que chrétien, ce sont des fêtes chrétiennes, parce que j'ai aussi entendu ça. On a la Pâque, on a la Pentecôte que les chrétiens font et qui disent ce sont nos fêtes. Là, on va se couper complètement de toutes les racines juives ou j'aime dire plutôt les racines hébraïques de la foi chrétienne et on va s'éloigner un petit peu de toute cette profondeur qu'il y a. Mmh. Et si on dit ce sont les fêtes de l'Éternel, alors là on recentre sur celui qui est l'objet et en fait qui est le créateur, le designer, j'ai envie de dire, en chef de ces fêtes. Et du coup, je trouve que voilà, ça ressent notre approche, ça ressent notre perspective. Et du coup, on se dit, là, qu'on soit juif ou chrétien, bah, si notre Dieu, voilà, c'est le Dieu d'Israël et des nations, et puis que si ce sont ces fêtes, bah, on va s'intéresser à ces fêtes parce qu'on veut plaire à Dieu, on veut le découvrir, on veut apprendre à le connaître et on veut rentrer en fait dans son calendrier. Donc voilà, c'est peut-être une première remarque. Ouais. Je ne sais pas si ça vous parle. Si bah quelque
si, chose c'est, qui, si, ouais. si, comme tu as dit, ça met très bien le cadre. Donc, nous ne parlerons pas de fêtes juives, nous parlerons des fêtes de l'éternel. Et voilà. C'est vrai que d'un seul coup, on se sent tous un peu plus déjà concernés et même avec un désir, je pense, plus grand d'implication dans ces fêtes de l'éternel. Et peut-être d'où l'importance, en fait, de pouvoir les découvrir. Parce que c'est quelque chose qui peut sembler très loin de nous. Tiens, moi, je te dis, j'ai aucune idée de comment est-ce qu'aujourd'hui, bah, tu vois, je pourrais l'appliquer à ma propre vie. Ouais. Si ce n'est le sabbat sous différents aspects, comme on a pu en parler avec Catherine, mais encore là, tu vois la différence entre ce sabbat qu'on peut faire à notre façon, entre guillemets, et puis comment il est célébré, il est célébré avec sérieux et avec, je sais pas comment le dire, mais de façon très officielle, encore dans la culture juive. Donc c'est pour ça. Dis-nous, apprends-nous comment
on veut tout savoir.
Comment fait-on ça?
Qu'est-ce qu'on mange?
Oui, qu'est-ce qu'on mange?
Tu vois qu'il y a de la bouffe qu'en fait, non?
Oui, alors c'est intéressant que tu commences par le sabbat ou du coup en hébreu le shabbat. J'aime aussi la revenir à l'étymologie du mot parce que du coup le shabbat en fait en hébreu ça vient du verbe lachevet qui est utilisé dans le vocabulaire hébraïque actuel pour dire en fait s'asseoir. Littéralement ça veut dire s'asseoir. Et donc le shabbat c'est le fait de s'asseoir mais dans le sens de s'arrêter. Pourquoi s'asseoir? Parce que en ce temps-là, en fait, le travail était beaucoup debout. C'était un travail beaucoup agricole, hein, dans les champs. Voilà, aujourd'hui, on est beaucoup plus assis devant nos ordinateurs, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et du coup, le fait de s'arrêter, en fait, ben s'asseoir, ça représentait aussi ces choses où on s'arrêtait dans notre travail. Et c'est vrai que le Shabbat, pour moi, c'est vraiment la pierre centrale de toutes ces fêtes. En fait, on a huit fêtes au total, voilà, et on a une fête qui est hebdomadaire, c'est le Shabbat, qu'on va vivre du coup chaque semaine, et puis on a sept fêtes qui sont annuelles. Et le Shabbat, c'est un peu la pierre centrale. J'ai un ami qui utilise l'expression qui dit que c'est un peu la brique qui permet de construire le mur de toutes les fêtes, dans le sens où chaque fête de l'éternel, chaque fête annuelle va comprendre un Shabbat. Pas forcément dans le sens, ça ne va pas comprendre un vendredi, du vendredi au samedi, voilà, le Shabbat c'est ça chaque semaine, mais ça va comprendre un temps de repos, un temps de pause, un temps où on s'arrête, un temps où on ne travaille pas. Et du coup, en fait, c'est la pierre qui va construire chacune de ces fêtes, et donc on doit revenir à Shabbat et comprendre pleinement Shabbat pour comprendre les autres fêtes de l'éternel. Et c'est vrai que Shabbat, en fait, c'est une fête qui est mentionnée dès Genèse, donc au tout début de la parole de Dieu, dans la création. Le premier qui a bénéficié de Shabbat, c'est Dieu lui-même, après les six jours de la création. Donc c'est fou, là aussi ça recentre les choses, quoi. Avant nous, Dieu il s'est reposé et il a vécu Shabbat, et à sa suite, l'ensemble de la création. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est important, parce que les autres fêtes, elles sont mentionnées essentiellement dans les lois mosaïques, dans Lévitique. Mais Shabbat, voilà, on le voit dès Genèse, et ensuite on va voir qu'il va être intégré au ce qu'on appelle les 10 commandements. Littéralement, c'est beaucoup plus les 10 paroles. Il n'y a pas la notion de commandement littéralement en hébreu, les 10 paroles de Dieu qui vont donner un cadre aussi. Et c'est le quatrième de ces paroles, et donc on voit l'importance de ce temps de Shabbat. Et pour faire un saut jusqu'à nous aujourd'hui, et puis c'est vrai que moi en tant qu'art-thérapeute, je pense que le Shabbat c'est quelque chose qui est encore pertinent pour nous aujourd'hui, surtout dans notre société qui est un petit peu folle,
ouais.
où il y a rien qui s'arrête, où on est une société de la fast information, fast food, fast fashion, voilà, tout va très vite. Et puis c'est une société où on n'a jamais eu autant de burn-out, voilà, autant de crises. Et en fait, il y a des études qui sortent maintenant qui disent mais en fait il faut s'arrêter au sein de notre société. Puis en fait ça, Desgenèse, Dieu nous l'a proposé. Sauf que l'homme, il est devenu esclave de son travail. Il est devenu esclave du fait de faire, de produire, de toujours plus. Et Dieu, en nous offrant Shabbat, parce que moi je considère ces fêtes vraiment comme un cadeau de notre papa.
J'ai une question terre à terre. Qu'est-ce qu'ils font pendant? Parce que moi, tu vois, le Shabbat, c'est contre ma nature. Tu vois, je suis en mode toujours hyperactive. Donc, est-ce qu'on fait vraiment rien pendant 24 heures? Comment ils fêtent ça?
Oui. Alors, il y a comment les Juifs le vivent, que ce soit en Israël ou les Juifs en diaspora. Il y a plein de types de Juifs, j'ai envie de dire. Et chacun le vit différemment. On a en effet des Juifs qui vont s'arrêter totalement dans le sens où on ne va pas travailler pendant 24 heures. On ne va pas aussi conduire. On ne va pas cuisiner. Ouais. On ne va pas créer. Voilà, c'est toutes les choses en lien avec la création. Et du coup, en fait, ça va être un temps qui va être fait pourquoi ? Qui va être fait pour se retrouver en famille, au sein du groupe,
cool.
avec les enfants et en communauté. Vous êtes à la synagogue et passer du temps, en fait, centré autour de Dieu. Donc, ça va être 24 heures pour cela. Et je crois que c'est quelque chose qui est bon. Donc, après, il y en a certains qui vont plus ou moins, plus ou moins respecter ces choses. Mais l'idée principale, c'est qu'on arrête son travail et on se recentre sur la famille. Et sur Dieu. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très beau. Et je pense dont on a tous besoin. Et c'est quelque chose qui est bon, en fait.
Ouais, absolument.
Voilà. Et puis, par rapport à Shabbat, une chose qui est intéressante et qui va aussi définir toutes les autres fêtes, c'est que du coup, c'est du vendredi soir au samedi. Le jour hébraïque, le jour biblique, il commence le soir.
Le matin.
Et il se finit le lendemain. Il y a un soir, il y a un matin, c'est le premier jour. Voilà. Et pourquoi c'est important et pourquoi pour moi c'est une image qui est importante? Parce que dans nous, notre façon de fonctionner un peu occidentale, on commence le jour à minuit une et puis ça se termine. Donc en fait, ça commence dans les ténèbres, ça va dans la lumière et puis ça finit dans les ténèbres en fait. On passe du matin jusqu'au soir et puis on finit notre jour le soir. Puis en fait, la vision hébraïque, biblique, c'est on commence dans les ténèbres, mais on finit le jour, en fait, on finit quand il y a de la lumière. Et en fait, c'est déjà une image de résurrection. C'est déjà une image d'espoir, une image d'espérance. Et donc, dans chaque jour, on a cette image-là. Voilà. Et j'aime
qu'est-ce qu'elles font,
le Shabbat commence le vendredi soir, ouais. Comme ça,
et qu'est-ce qu'elles font, les familles? Qu'est-ce qu'elles font, en fait? Tu dis, elles se rassemblent, mais est-ce qu'ils mangent? Est-ce que
ils cuisinent pas, ouais.
Ouais, ils cuisinent pas.
Ils mangent.
Est-ce qu'il y a des lectures de textes, des temps de prière? Est-ce que tout ça, c'est prévu dans ce temps de Shabbat?
Donc là encore, les uns les autres... Voilà, suivant jusqu'à où on observe le Shabbat, il va y avoir des façons différentes de faire. Donc le Shabbat commence le vendredi soir, mais du coup le Shabbat se prépare. Et en fait, toute la semaine tourne autour de Shabbat. Et j'ai envie de dire, en Israël particulièrement, toute la société tourne autour de Shabbat. C'est-à-dire que déjà le mercredi, jeudi, on va commencer à préparer justement, on va commencer à cuisiner des choses. Le vendredi, il y a les dernières courses qui sont faites, le dernier marché, puis dès... 14h, ça dépend, 14h-15h, ben en fait, il y a tout qui ferme, les magasins qui ferment, tout le monde est à la maison, prépare, il va y avoir du ménage qui va être fait par la maman, aider des enfants éventuellement. Et le Shabbat, du coup, commence le vendredi soir par l'allumage de deux bougies. C'est le temps, en fait, pour rentrer dans ce temps de Shabbat. C'est une signification que j'aime beaucoup parce que c'est, en fait, on sépare la semaine de un peu profane de ce temps sacré. Sacré dans le sens de mise à part. Et du coup, on va faire ça en allumant deux bougies. Deux bougies qui nous rappellent aussi, en fait, il y a deux verbes qui dessinent le Shabbat. Il y a le fait de se souvenir du Shabbat, et il y a le fait de garder, d'observer le Shabbat. Et donc, on va avoir deux bougies aussi qui vont nous parler de ça. Puis ensuite, il y a un temps à la synagogue. Pas forcément toute la famille y va, les hommes, en tout cas, ils vont essentiellement. Et puis, le soir, ensuite, il y a le repas. Beaucoup de fêtes, dans beaucoup de fêtes, c'est autour de repas. On aime manger dans la culture juive. Biblique, et c'est ce repas et cette soirée, c'est ce qu'on va appeler le Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat, c'est la réception, l'accueil du Shabbat. En fait, on va accueillir Shabbat, même des fois, le Shabbat est comparé à une mariée qu'on va accueillir. Mmh. Donc voilà, on se prépare, on se fait beau, on se fait belle. Et donc, c'est un temps où en effet, on a des aliments, on a un bon repas en fait qui est préparé. On va avoir plusieurs. Éléments qu'on retrouve de partout, on va avoir ce qu'on appelle deux ralotes. Les ralotes, c'est des pains de Shabbat. C'est des fois en Suisse, ils avaient comme des tresses. Voilà, c'est en tout cas, c'est un pain qui est tressé. Donc, c'est un pain qui est beau, qui est gonflé. Voilà. Et ces deux ralotes, en fait, elles vont nous rappeler la double portion de manne que Dieu a donné aux Israélites dans le désert. Et oui, il leur a dit, ben voilà, je vous donne chaque jour quelque chose, mais à Shabbat, en fait, enfin le sixième jour pour préparer Shabbat, je vais vous donner une double portion pour vous permettre de vous reposer.
Waouh.
Voilà. Et en fait, ces deux pains nous rappellent ça. Et je trouve ça tellement chouette de manger ça et de dire, ben en fait, alors que nous on se repose, Dieu il pourvoit. Et pour moi, au double. Voilà. Alors qu'on aurait tellement de choses qu'on devrait encore faire. Mais en fait, lui, il connaît. Et puis,
Nadège, tu as dit que tu avais participé à un Shabbat.
Ah ouais.
Est-ce que tu as vu tout ça? Tu as vécu tout ça?
Ce qui est sûr, c'est que j'ai retenu. J'ai beaucoup mangé. J'ai pris beaucoup de vin. J'étais étourdie un peu à la fin. Mais j'ai plus apprécié cette façon de lancer des bénédictions à table à chaque fois. Mmh. Lancer des bénédictions comme ça et prononcer des paroles de bénédiction.
Ah ouais.
Moi, je me disais en ce moment, j'ai dit, ce serait bien comme ça de faire ça en famille, de temps en temps, de vraiment de prononcer, que le Père prononce des paroles de bénédiction. Mmh. Moi, c'est ce qui m'avait plus impressionné, mais j'avais beaucoup mangé.
Pas juste de pain, là, t'as mangé plus de...
Ah non,
il y avait du bris là-dessus, du camembert sur tes pains.
On a mangé, donc tu peux pas dire que non, tu as mangé à ta faim et c'est resté, quoi.
Ah ouais. Et Doris, ces paroles de bénédiction, ça fait partie de la fête. Est-ce que c'est des paroles, on dit tout le temps les mêmes paroles? Est-ce que c'est quelque chose de programmé? Tout le monde utilise la même chose? Ou c'est quelque chose qui se renouvelle chaque semaine et c'est des personnes différentes?
D'une façon générale, dans la culture juive, en fait, il y a des prières où on bénit Dieu pour... En fait, beaucoup de choses. On le bénit Dieu dès le lever du matin. Merci parce qu'en fait, tu as ramené ton esprit en moi. Merci pour ce que je vais vivre. Pour chaque aliment, en fait, il y a des choses. On le bénit, on le remercie. Et pour Shabbat, il y a des prières particulières. Et comme Nadège disait, par exemple, au niveau du père, en fait, le père de famille joue un rôle déterminant. Et il va bénir son épouse. Il va lire le proverbe 31. Mmh.
Tous les vendredis?
De plus en plus, ça me parle, Shabbat, moi.
Ah oui, c'est bien, on va attendre cette bénédiction, nous.
Ok, donc tous les vendredis, le mari bénit son épouse publiquement en lisant le proverbe 31. Wow.
En lisant le proverbe 31.
Le proverbe 31.
Il la regarde.
La façon dont on le fait en famille, c'est vrai que le papa peut lire ça. Après, moi, j'encourage aussi à ce qu'il puisse dire des paroles de son cœur aussi.
Des propres mots à lui, ouais.
Oui.
Sur les familles, il y a ça. Et puis, il va aussi bénir chacun de ses enfants. Mmh. Et ça, je trouve que c'est aussi tellement important dans notre société. Et que les enfants, alors, voient que leur maman est bénie par le papa. Je pense que c'est important. Mais que les enfants soient aussi bénis par leur papa directement. Et donc, là encore, il y a des prières qui sont écrites spécifiquement pour les garçons ou pour les filles. Mais après, moi, ce que j'encourage aussi, c'est de laisser parler le cœur. Et si le papa veut... bénir les enfants de façon particulière et unique, en reconnaissant peut-être en chacun de ses enfants de certaines qualités. Je crois que c'est des choses qui vont marquer les enfants. Et pour moi, ce moment, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement pertinent dans notre société où la famille est malmenée. Que ce soit le couple, les relations parents-enfants. Je crois que c'est quelque chose qui permet aussi de garder la famille et puis de bénir la famille. Donc,
et ouais, par rapport aux enfants, est-ce que j'ai plusieurs questions, mais comment ça leur est transmis que eux-mêmes comprennent l'importance et toute la signification du Shabbat? Et l'autre chose aussi, c'est est-ce que dans la nouvelle génération, les jeunes adultes, est-ce que il y a la même pratique? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive à se perpétuer, ou alors est-ce qu'on ressent un déclin ou des Shabbats peut-être plus légers?
Alors, la notion de transmission, c'est vraiment quelque chose qui est présent dans la culture juive et qui est présent dans la Bible. Tu enseigneras ces paroles à tes enfants, tu leur rappelleras quand vous serez en voyage, voilà, vous direz ça à vos enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est central. La transmission, c'est quelque chose qui est vraiment important dans la culture juive, dans la société juive. Donc ça, c'est une chose. Après, là encore, pour moi, ça dépend vraiment de chaque famille. Et tu parles de transmission ensuite par rapport aux jeunes adultes. Bah, tout dépend comment ils ont vécu ça dans la famille. Si dans la famille, vraiment, il y avait cela, et normalement, c'est au cœur, mais des fois, il y a des familles qui s'en fichent, hein, je veux dire, des familles qui, bon, bah, Shabbat, c'est pas si important que ça. Mmh. Donc, c'est tout dépend. Le rôle des parents est clé là-dedans. Il y a des jeunes adultes qui vont du coup de nouveau transmettre ça à leurs enfants et qui vont fonder des familles où le Shabbat sera central et où la transmission sera là. Il y a des familles où des choses vont s'étioler. Voilà, j'ai envie de dire comme chez les chrétiens, où j'imagine d'autres familles où il y en a certaines.
Mais il y a beaucoup de familles qui le font pas.
Je saurais pas te dire en pourcentage, parce que vraiment chacun vit le Shabbat d'une façon différente. En tout cas, moi, ce que je vois en étant en Israël, c'est que le Shabbat est central, c'est-à-dire qu'on va se réunir en famille à Shabbat. Ça, c'est quelque chose vraiment qui se fait. Tout s'arrête, le pays s'arrête. Voilà, donc on vit Shabbat, c'est vraiment le moment où on voit les gens sortir dans la rue avec des plats ou quoi, des bouquets de fleurs pour amener. C'est vraiment un temps de fête chaque semaine. Après, la façon dont c'est vécu au niveau du repas sur place et de la soirée, voilà, ça va dépendre des uns.
Ok,
des uns,
mais des autres. Vu que toute la société, le pays est fait pour pouvoir le vivre, ça crée au moins le rassemblement. Mmh. Maintenant, dans toutes les familles, est-ce qu'il y a une signification peut-être plus religieuse à avoir? Mais je veux dire, ça fait vraiment partie des habitudes, ouais. Et c'est pas quelque chose qui s'est perdu encore aujourd'hui. Mmh. C'est au cœur de la semaine. Il y a pas des gens qui sont complètement étrangers à ça. Non, moi, je le fais pas du tout, ça me parle pas, etc.
Oui, oui.
Mais c'est vraiment super parce que il y a pas grand chose finalement, je trouve, qui dans le monde en général a gardé cette régularité, parce qu'en plus c'est pas facile. Tu fermes, les commerces ferment.
Ouais, si le gouvernement appuie, ça aide à le faire. Ouais,
parce que toi aujourd'hui, moi quand j'étais plus jeune,
c'était hier.
Je pensais jamais dire ça un jour. Mais non, mais tout était fermé le dimanche. Ouais. Je vais dire. Peut-être la boulangerie, elle était ouverte le dimanche matin, mais après tout était fermé le dimanche. Tu cherchais pas, c'était pas possible d'aller faire des courses ou quoi que ce soit. Et puis tu vois que dans les 20 dernières années, en fait tout a changé et ça a commencé à ouvrir un petit peu plus. Et tu vois, le dimanche, c'est devenu un jour comme les autres, je pense, pour pas mal de gens. Tout est ouvert, pour faire tes courses, les restaurants, les machins, etc. Il y a plus ce jour où toute la société s'arrête et où quelque part t'as pas le choix, en fait. C'est que là, au contraire, tout est ouvert pour pouvoir répondre aux besoins constants et que jamais tu puisses t'arrêter. Il y a pas cette organisation qui te force à ça et qui t'aide, parce que quand tout est ouvert, quand tout est possible, le dimanche ou un autre jour de la semaine, c'est tentant, je trouve, quand même, de pouvoir y aller, d'aller faire tes choses.
Ouais. Moi, j'allais dire quelque chose. Lorsque nous avions assisté à cette soirée du Shabbat, nous avions été impressionnés, mon mari et moi, parce qu'on s'est rendu compte au fait que le père avait ce rôle de sacrificateur, de bénir sa maison, de bénir sa femme, de bénir ses enfants. Et c'est quelque chose qui nous a tellement marqué que mon mari, dès qu'on est sorti de là, il a dit, pourquoi Dieu demanderait ça? C'est que vraiment, le père a un rôle très important à jouer sur la bénédiction de ses enfants et de sa femme, de sa maison. Et mon mari a pris ça, mon mari a cette habitude de bénir les enfants, de me bénir, de prononcer vraiment des paroles de bénédiction sur moi et sur les enfants. Il a dit, quand Dieu demande quelque chose, c'est que c'est important et il faut le faire. Alors il a pris cette habitude de bénir, de prononcer des paroles de bénédiction sur moi, prononcer des paroles de bénédiction sur chaque enfant avec toutes les particularités. Et ça, vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose qui nous a impressionné et que nous gardons jusqu'à aujourd'hui. On se dit, Dieu sait pourquoi il a demandé au père de la maison de le faire et on le fait. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, qui me marque tous les jours lorsque Marie le fait et je le reçois vraiment avec foi, quoi.
C'est vrai que ça donne envie de vivre un vrai Shabbat.
Ouais, vraiment.
Beaucoup de nourriture.
Au moins quelques fois par année, peut-être. Ouais, c'est pas toutes les semaines, mais au moins.
Oui, c'est ça.
C'est pas juste à l'action de grâce ou à Noël. Souvent, on pourrait mettre ça encore plus dans notre. Dans notre routine de vie, on serait béni.
Une fois le mois ou une fois le deux mois.
Ouais, exact.
Bénir, vraiment, le père prend ce rôle-là de bénir ses enfants, de bénir son épouse, de bénir la maison. Je pense que c'est vraiment quelque chose de beau et de. Une chose bonne à perpétuer, ça. Moi, je pense que c'est vraiment.
Et peut-être même pour les mamans monoparentales. Tu sais, des fois, t'es tout seul, mais tu peux prendre ce rôle de bénir tes enfants, tu vois, aussi, de le faire. Donc, oui, c'est. De toute façon, hein, s'il n'y a pas rien de mieux quand on répand la bénédiction,
c'est bien
la présence de Dieu se répand aussi.
C'est bien de prier, je peux le faire sans eux, je peux prier pour mes enfants. Mais c'est toujours bien, et ça reste dans les enfants, ils te voient, toi, en train de prononcer ces paroles-là en face, tu le bénis. Moi, je pense que ça marque les enfants, et ça, c'est quelque chose de beau, parce que je le vois avec les enfants. Quand ils étaient petits, ils posaient des questions, pourquoi papa dit ça? Mais maintenant, ils trouvent ça normal de que ces paroles de bénédiction soient lancées sur eux. Moi, je pense que c'est bien pour l'héritage aussi.
Ouais, super. Tu vois, Doris, ça nous. Ailleurs, on a envie, là, on a envie.
On va faire.
Et est-ce que. On va avoir le temps de parler d'une autre fête.
Ouais.
Peut-être une autre fête, une des fêtes annuelles, une des plus importantes, ce serait laquelle, selon toi?
Alors, si je peux me permettre, pour vous donner aussi un aperçu global du coup des fêtes, donc j'ai dit qu'il y en avait 7, et comme ça, voilà, juste pour vous donner un aperçu et situer la fête dont je vais parler. Donc, sur les 7 fêtes de l'Éternel, elles sont divisées en deux parties. On a ce qu'on appelle les fêtes de l'automne et de l'été, puis on a les fêtes du printemps et de l'été, et les fêtes de l'automne. Dans les fêtes du printemps et de l'été, on va en avoir 4. On va en avoir 3 qui vont être autour de Pâques. Qu'on connaît en tant que chrétien, mais en fait, les chrétiens vont mettre une fête, alors que dans la Bible, il y en a 3. Il y a la fête des pains sans levain, qui va durer en fait 7 jours. Il y a la fête de la Pâque, qui va durer un seul jour. Et puis, il y a la fête des prémices, qui va durer aussi un jour. Et puis ensuite, en été, fin du printemps, on va avoir la fête de Pentecôte, de Shavuot. Voilà, qu'on connaît aussi un petit peu. Ces fêtes, au niveau des chrétiens et des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui ont reconnu en Jésus, en Yeshua, leur Messie, puisque chaque juif attend son Messie. Voilà, il y a certains juifs qui ont reconnu en Jésus, en Yeshua, leur Messie. En fait, ces 4 fêtes ont été accomplies avec la première venue de Jésus. Et ensuite, on a les fêtes de l'automne. Et donc là, il y en a 3. Et c'est des fêtes que les chrétiens, du coup, connaissent beaucoup moins. Il va y avoir les fêtes des trompettes, Yom Teruah. Il va y avoir la fête de Yom Kippour, la fête de l'expiation. Et il va y avoir la fête de Sukkot, la fête des cabanes. Et en fait, ces fêtes, du coup, les chrétiens et les juifs messianiques estiment que tout comme Dieu a pleinement accompli au travers de Jésus les premières fêtes, eh ben, ces deuxièmes fêtes, il va les accomplir aussi. Et donc, ces premières fêtes parleraient de la première venue du Messie, et les deuxièmes fêtes parleraient de la deuxième venue du Messie. Et donc, d'où le fait que ces fêtes de l'automne sont aussi vraiment... importantes, parce que je pense, elles sont les moins connues, mais elles sont importantes, si les chrétiens s'intéressent au retour de leur Messie. voilà. Et dans ces fêtes, moi, c'est la dernière, celle de Soukhot, qui il y en a beaucoup qui sont importantes. J'ai envie de dire la Pâque, Pessah, et puis les trois fêtes autour sont assez importantes. Puis la dernière est aussi importante, mais toutes ont leur importance. Et c'est la fête de Soukhot, c'est une fête qui va durer 8 jours. Donc, c'est vrai qu'elle elle dure aussi pas mal de temps. Et c'est ce qu'on appelle la fête des cabanes. Okay. Et donc, elle arrive à la fin de ce cycle. Et il faut se dire que chaque année, on repasse à travers ce cycle. Et c'est parce qu'on a pu passer par la fête des pains sans levain, de Pessah, où on se rappelle de la sortie d'Égypte, de l'agneau qui a été sacrifié, et puis la fête des prémices, où ensuite on va apporter aussi la première gerbe au temple en offrande à Dieu, parce que aussi à Shavuot, il nous donne le don de la Torah, de l'enseignement, voilà, de la parole de Dieu. Et qu'ensuite, à la fête de l'automne, on va avoir cette fête des trompettes, où on est réveillé, où c'est un peu un son qui est strident, on dit attention, Dieu revient, Dieu est le roi. Est-ce que je réaligne ma vie sur qui il est? Et puis cette fête de l'expiation, qui est une fête où on va demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour ce qui s'est passé, et de savoir qu'ensuite on est pardonné, qu'on peut rentrer dans cette dernière fête, qui est cette fête de Soukhot, qui est la fête de la joie par excellence. Donc c'est une fête où on va vivre pendant 7 jours dans des cabanes pour se rappeler. Alors, littéralement, j'ai pas de photos là, mais des petites huttes, les juifs, voilà, vont construire des petites cabanes sur leur.
Mais du coup, les gens ont leur maison, leur habitation, mais là, pendant 8 jours.
Ils t'ont envie de bien une petite hutte?
Mais genre, t'es dans un appartement et tout ça, il y a des terrains pour tout le monde. Comment ça s'organise? Ouais, alors, je comprends pas.
Il y a deux façons pratiques, c'est pas toujours évident. Ceux qui ont un balcon, ils vont faire un petit truc leur balcon. Il y en a certains, on va voir sur les trottoirs des petites cabanes commencer à être construites. Normalement, l'idée, c'est de vivre entièrement dans cette cabane. Normalement.
D'accord.
Ce que Dieu demande, c'est-à-dire de manger, de dormir, de faire les choses dedans. Il y en a certains, là encore, qui vont le vivre vraiment, voilà. Et puis, il y en a certains qui vont faire que certaines choses. Donc, par exemple, qui vont faire que manger. Essentiellement, la chose qui est faite, les familles, elles vont manger
dans les cabanes
pendant 7 jours. Okay. Voilà. Il y a certains qui déplacent les matelas et puis on va dormir dessous. Alors ça, avec les enfants, c'est excellent aussi à faire, quoi. C'est quelque chose
d'important. J'aime ça. Oui, mais si t'es plusieurs, ça prend une grande cabane quand même. On me disait une petite cabane, mais c'est quand même...
Et dans les rues, les gens font des cabanes.
Donc voilà, c'est des choses un peu standards. Hein. Maintenant, ça a été un peu standardisé. Il y a un peu des choses en kit même qu'on peut avoir pour des cabanes. Et en fait, le toit, c'est un toit normalement qui est fait avec des branchages. Donc pareil, on voit des camionnettes là avec des branchages qui se déplacent et puis qui vont livrer des branchages à droite à gauche. Après, les uns les autres décorent la cabane. On met plein de décorations, des fruits, un peu comme peut-être les chrétiens vont avoir en décoration de Noël, des fois un peu des choses brillantes, des guirlandes, ça qui vont voilà, de la lumière. Donc ça va être quelque chose aussi de joli. Des fois, il y a des concours de souka. Voilà, souka, c'est la cabane. Soukhot, c'est le nom de la fête. C'est la fête des cabanes. Donc voilà, qui est-ce qui va faire la plus belle cabane?
Et c'est quelle date? Quelle date exactement?
Et au niveau de la date, c'est pas une date dans notre calendrier grégorien, mais ça correspond dans notre calendrier grégorien au mois de septembre-octobre. Chaque année, ça va changer, puisque les mois bibliques, voilà, sont différents de nos mois, mais ça va correspondre au mois de septembre-octobre.
Ok. Et qu'est-ce qu'on fête en fait exactement à ce moment-là?
C'est la joie, mais la joie de...
Voilà, la joie. Alors, les cabanes, pourquoi? Donc, on va se rappeler les cabanes sous lesquelles le peuple vivait dans le désert, pendant les 40 ans dans le désert. Ils vivaient dans des petites cabanes. Et en fait, le symbole de la cabane, c'est quelque chose d'important parce que ça nous rappelle en fait la présence de Dieu. Et le fait que pendant les 40 ans dans le désert, Dieu, il était là, il était présent, et puis il nous a gardés pendant 40 ans. Et j'aime ce symbole parce qu'aujourd'hui, je pense, dans nos maisons, dans nos immeubles, avec beaucoup de technologies, moi, j'ai des fois ce sentiment qu'on est un peu invincible. rien ne peut nous arriver, quoi. On est protégé de tout. Et du coup, le fait de retourner dehors dans cette cabane qui est frêle, qui, avec le branchage, ben, on va voir les étoiles, mais on va quand même laisser passer la pluie, voilà. Ben, en fait, on se rappelle que la seule personne qui nous protège, c'est Dieu. Et en fait, c'est aussi en lien avec le tabernacle, qui était une demeure qui était temporaire aussi. Et puis ensuite, c'est devenu le temple, qui était une demeure qui était plus éternelle. Puis l'idée, c'est qu'on va de cette demeure temporaire et on attend quand le Messie va revenir et puis qu'il y aura une demeure éternelle. Et au niveau des chrétiens, en fait, dans essentiellement Jean, que ce soit dans Jean dans son évangile, mais aussi dans l'Apocalypse qui a été écrit par Jean. En fait, il emploie beaucoup de vocabulaire pour dire que Jésus va revenir et il va habiter. Par exemple, dans Jean, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, mais aussi dans l'Apocalypse où il va revenir et il habitera parmi eux. Et en fait, ce vocabulaire, c'est le vocabulaire de Soukhot. Ce vocabulaire, littéralement, c'est pas habiter, c'est tabernacle. C'est cabané, je ne sais pas s'il y avait un verbe. Il va faire sa cabane, il va faire son tabernacle, il va faire sa souka en fait au milieu d'eux. Et il est venu habiter parmi eux en fait comme une souka. Et donc c'est un petit peu l'aspect prophétique aussi de cette fête où en fait on attend que le Messie revienne et puis habite pleinement avec nous. Donc c'est ce qu'on attend au niveau de cette fête. Donc, ouais, c'est ce pour qui est fêté, puis je parlais de la joie, parce que en fait dans cette fête, c'est l'une des seules fêtes où c'est un commandement de se réjouir. Dieu il va dire, lors de cette fête, tu vas te réjouir, et puis certaines traductions elles disent même, tu vas te livrer entièrement à la joie. Donc c'est un commandement, voilà, de se réjouir devant Dieu. Puis aujourd'hui, chez les Juifs, le dernier jour de la fête, c'est le jour qui est appelé Simchat Torah, donc la joie de la Torah. Et en fait, ça va être un jour où on va sortir les rouleaux de la Torah. Donc la Torah, c'est vraiment quelque chose de précieux. On a les rouleaux. La Torah, du coup, c'est les 5 premiers livres du Tanar, de l'Ancien Testament. Et on va sortir ces rouleaux et en fait, il va y avoir des danses autour de ces rouleaux. On va prendre les rouleaux dans les bras. On va, on va danser dehors, on va danser dans la synagogue. Wow. C'est une joie qui en vient avec ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, la Torah, elle est divisée en sections. Et chaque section par une section par semaine, puis on va lire toute la Torah en un an. En fait, on commence le début dans Genèse, on commence justement à cette fête de Simchat Torah et on le finit à cette fête de Simchat Torah. Mm-hmm. Lors de cette fête, on aura fini l'ensemble de la lecture de la Torah. Et du coup, on se réjouira et puis du fait qu'on peut aussi recommencer cette lecture. Donc, c'est aussi en lien avec ça.
Stéphanie, tu voulais poser une question ?
Non, c'est juste parce que ça me faisait sourire que dans Apocalypse, justement, quand Jésus dit « Je vais frapper à ta porte, j'entrerai chez toi et je mangerai avec toi. » Et je me demandais si cette fête-là, c'est dans la cabane où tu manges, justement, ou que tu célèbres que Jésus va revenir et manger avec toi, comme annoncé dans l'Apocalypse. C'est un peu l'idée de qu'il va venir dans ta maison quand il va revenir. Donc, c'est pour ça que j'aimais le lien entre l'Apocalypse et cette fête-là. Et je trouve que tu me donnes soif. Tu dis de mieux comprendre toute l'histoire du peuple, on va dire hébraïque ou juif, parce que ça nous aide à tellement mieux à comprendre la Bible, dans quel contexte ça a été écrit. C'est une richesse et de voir comment que Dieu laisse jamais rien au hasard. Tu vois, des deux pains, de toutes ces choses-là, de la sortie du désert, de tout ça. Et moi, je trouve que ça donne encore une plus grande saveur à la parole de Dieu, puis une grande justesse. Donc moi, ça m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et même ce côté de la réjouissance, qui n'est pas une réjouissance pour rien, c'est une réjouissance autour de la parole.
Réjouissez-vous donc, Seigneur.
Et là, avec les rouleaux, on danse autour. Je me dis, dans quel contexte on danse autour de la Bible, on se réjouit autant de cette façon-là et que ce soit pas bizarre, mais pourtant on devrait
une récompense du Seigneur, parce que souvent les chrétiens
plutôt que
ouvrir leur crispée, parole toujours
tu te dis elle serait trop bien, tu mets là la Bible et on nous tous en danse.
Mais aussi l'idée de la précarité de la maison pour jusqu'à temps que Jésus revienne. Tu sais, des fois on vit notre vie chrétienne puis on oublie
En fait, on n'est que de passage et c'est le retour de Jésus qu'on attend. Donc, c'est très inspirant, moi, ça.
Bah, écoute, merci beaucoup, Doris, parce qu'on a appris beaucoup plein de choses. Sachant qu'en plus, on n'a pas fait toutes les fêtes.
Non, moi, je serais suspendue à ses lèvres. Il faut refaire, Annabelle. Bah, écoute,
sinon, la bonne nouvelle pour vous tous qui voulez en savoir plus, c'est que Doris a donc écrit un livre. Oui. Donc, c'est Doris Lévy Alvarez. Elle a écrit ce livre, Les Fêtes de l'Éternel, où elle a le temps de pouvoir expliquer toute. Toutes les fêtes. Et c'est vrai que c'est hyper inspirant et de t'entendre en parler de cette façon aussi claire, ça nous permet de mieux comprendre et puis de se dire il y a des choses on passe à côté, on a des choses à vivre et c'est vrai que toutes ces fêtes prennent de la place en fait dans l'écriture et puisque ce ne sont pas des fêtes juives mais les fêtes de l'Éternel, eh bien nous sommes tous concernés. Oui. Donc merci Doris d'avoir pris le temps de venir nous expliquer un petit peu, puis d'avoir écrit ce livre et de pouvoir nous éveiller en fait sur ce sujet-là. Je pense que Dieu peut faire de belles choses à travers ces fêtes, à travers ces temps spécifiques dans l'année et qui ne sont pas du tout des fêtes au hasard ni des coïncidences comme vous l'avez dit Nadège aussi Stéphanie. C'est que Dieu fait les choses bien et pour un but et parce qu'il savait que c'était bon pour nous et ça allait fortifier notre foi. Donc merci beaucoup Doris d'avoir été avec nous. Écoute, j'espère ce serait bien une suite. Ce serait bien une suite.
Oui, je suis suspendue à ses lèvres. Moi je veux ton livre. On va faire du troc, Doris.
Avec grand plaisir et je crois ce que aussi vous disiez c'est que il y a plein de détails en fait dans la parole. En effet, dont on passe à côté parce que on connaît pas toutes ces fêtes. Alors ça change pas le message général, on est d'accord, mais je trouve que en fait de voir certains détails et pourquoi Jésus dit certaines choses, pourquoi certains évangélistes vont dire certaines choses, en fait ils font référence à des fêtes, ils font référence à des moments précis, et en fait je trouve que creuser ces fêtes ça va nous amener en fait à toujours plus nous émerveiller devant la pédagogie de Dieu et comme tu disais Annabelle aussi Dieu il laisse rien au hasard. Et l'idée dans tout ça c'est aussi de vivre ces fêtes. C'est quelque chose que je répète, on ne fait pas les fêtes, parce que ça peut devenir très vite quelque chose où je vais cocher des cases, mais c'est aussi vivre. Et en fait, Dieu, il nous invite à ces fêtes. Il nous invite
Peut-être résolution de mise en place pour cette nouvelle année 2026. Achetez le livre et mettez ces choses en place. Commençons à pouvoir vivre les fêtes de l'Éternel. Un grand merci Doris.
Merci.
On te dit bye bye à une prochaine et puis nous tous on se retrouve vendredi. Bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.